L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive tous les 15 jours.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette actu sur un plateau un peu particulière puisque je vous la présenterai seule aujourd'hui avec tout de même Émilie aux manettes de la technique. Bonjour.
Bonjour.
Et elle est un peu particulière également cette actu car à l'occasion de la journée mondiale de la radio, c'était lundi dernier, nous avons choisi de vous faire cette semaine une actu spéciale radio. Alors on va parler de nous et encore de nous. Enfin pas que, on va parler surtout de ce média qui chatouille vos oreilles à longueur de journée, de son évolution à travers les âges, de son organisation, de son avenir aussi. On s'intéressera surtout aux radios associatives locales, à leur regroupement, à leurs problèmes techniques et à cette fameuse radio numérique terrestre qui viendra peut-être un jour remplacer la FM. Pour cela, nous recevons aujourd'hui par téléphone Sébastien Poulain, co-auteur du livre Radio Libre, 30 ans de FM, la parole libérée, Eliane Blin, présidente de l'ARA, l'Assemblée régionale des radios associatives, et Jean-François Chaval, cofondateur de Antenne Doc dans le Lot et de Radio Grésivaudan, que nous avons enregistré hier, on l'excuse de ne pas avoir pu être disponible aujourd'hui.
L'invité de l'actu culturelle.
L'actu culturelle.
Tout d'abord, donc, nous recevons Sébastien Poulain, co-auteur de Radio Libre 30 ans de FM La Parole Libérée, paru en novembre 2016 à l'Harmattan. Bonjour Sébastien Poulain.
Eh oui, bonjour.
Donc en 1980, c'est la fin du monopole d'État de la radiodiffusion. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur les grandes lignes de l'émergence des radios libres ?
Eh bien écoutez, avec plaisir. Bon, donc c'est un mouvement... Alors, faut le situer historiquement par rapport à toute l'Europe, d'ailleurs, hein, parce que justement, notre ouvrage, il parle de toutes les radios libres d'Europe, voire du monde, puisqu'on parle aussi de l'Afrique, mais l'Afrique, c'est vrai que ça arrive beaucoup plus tard, ça arrive dans les années 90. Mais donc, alors, ce qui se passe, c'est que bah, vous connaissez sans doute, par exemple, les radios offshore anglaises, hein, vous savez,
les radios pirates.
Mais oui, les radios, voilà, les radios pirates en effet, qui étaient sur des plateformes, des bateaux. Et donc, bon, alors ça, c'est voilà, c'est un peu une origine, un peu des radios libres. Donc ça se passait plutôt en Angleterre ou plutôt à la Belgique, Hollande. Et puis donc ça a eu une influence un peu en France. Hein, les gens ont voulu un peu faire la même chose après pour ceux qui ont connu un peu ce mouvement. Et donc, sinon, donc en France, pour être plus précis, en France, bah, c'est plutôt la fin des années 70, hein, 75, et même plutôt, disons, ouais, on fait partir le mouvement de 77, où il y a quand même là une augmentation du nombre de radios qui émettent de façon illégale, donc sur la bande FM française. Donc, bon, il y a une influence aussi de l'Italie, hein, avec... un mouvement qui explose aussi à peu près à la période un petit peu avant, mais il y a aussi la Belgique. Voilà, c'est un mouvement un peu général en Europe qui à la fin des années 70. Et donc, les gouvernements les combattent globalement hein, dans tous les pays. C'est les gouvernements qui ont poussé à l'existence des radios libres, hein, on va dire. Et donc surtout en France, où dès 78, il y a une loi qui interdit ces radios, qui les combat, qui punit les gens qui font de la radio. Donc voilà, c'est vraiment une autre époque. Hein. C'est une époque voilà où le fait d'émettre, ça posait des problèmes. Donc voilà, donc ça c'est donc 81. Et voilà, il y a quand même un combat de 4 ans, c'est-à-dire 4 ans où des radioteurs, enfin voilà, des radiolibristes se battent, émettent. Alors parfois c'est juste une heure. C'est juste des enregistrements, mais voilà, le but c'est d'émettre pour montrer que pour avoir le droit d'émettre, il faut déjà émettre. Donc voilà, c'est le fait pour avoir le droit
de le prendre donc, en premier.
Pardon ?
De le prendre tout d'abord.
Oui, voilà, forcément, comme c'est interdit, il y a voilà, c'est en fait c'est la technique de l'illégalisme, c'est-à-dire voilà, faut prendre le droit. pour l'obtenir un jour. Donc c'est un peu la stratégie de l'époque, et puis c'est aussi, bah, y a une stratégie de communication aussi, montrer que voilà, on est dans le pays des droits de l'homme, donc il y a la déclaration des droits de l'homme, etc. Donc ils se sont appuyés sur ça aussi, les droits de la communication, la liberté de la presse, la liberté des médias, la liberté d'entreprendre, enfin il y avait des libertés sur lesquelles s'appuyer. Il y a eu des procès d'ailleurs avec Radio Fil Bleu qui était une radio qui dont les fondateurs appartenaient au même mouvement politique, au même parti politique que Valéry Giscard d'Estaing, qui était au pouvoir, qui était président, et qui, lui, a lutté de tout son possible contre les radios libres. Et donc, eux-mêmes ont fait un procès, finalement, à l'époque, pour avoir le droit d'émettre. Et d'ailleurs, ils ont gagné, mais ensuite, une loi est passée, une loi interdit totalement ces radios libres.
Alors, donc, pour autant, oui, comme vous disiez, le pouvoir n'a pas été tout de suite très, très enclin à les permettre, ces radios. Quelle diabolisation a pu en être faite ?
Bien oui, alors, le pouvoir, et même, je dirais, tous les pouvoirs, sans beaucoup d'exceptions, à part, on va dire, les Verts de l'époque, à part les écologistes... ou à part, si vous voulez, en fait, il y avait des clivages au sein des partis, hein, quand même. On peut pas généraliser. Donc, y compris au sein du Parti Socialiste, il y avait des clivages. Hein. Certains étaient complètement contre, d'autres étaient pour. C'est-à-dire, au sein du Parti Socialiste, il y avait... Mitterrand a fait un peu de radio libre, mais ce qu'il voulait faire, la radio libre qu'il voulait faire, au final, c'était plutôt une radio locale de service public. C'était une sorte de radio municipale. Hein, c'était pas, voilà, les objectifs n'étaient pas très clairs, même si c'est vrai que c'est Mitterrand qui a autorisé les radios libres au final, qui a autorisé les radios locales privées, associatives. C'est vrai qu'il y avait vraiment une ambiguïté dans tous les partis. Mais par contre, le pouvoir, voilà, officiellement, clairement, il y avait une loi qui interdisait de faire de la radio et qui a combattu. Et qui... Alors, il y avait différentes façons. Donc, il y avait évidemment la police, il y avait aussi TDF directement ou indirectement qui faisait du brouillage. Enfin, il y avait plusieurs méthodes, voilà, pour empêcher les radios libristes d'émettre. C'était pas aussi facile que de faire un blog aujourd'hui ou d'être sur un réseau social. Donc, voilà, c'est vraiment une lutte, voilà. Parce qu'en plus, les radios libristes, pour se faire connaître, devaient communiquer dans la presse, parce que les journalistes, eux, étaient plutôt favorables à ce mouvement. Hein. Les journalistes ont écrit beaucoup d'articles, et donc ils annonçaient quand il y aurait une émission, quand une radio allait commencer à émettre, etc. Et donc, finalement, la police était prévenue aussi, par les journalistes, donc la TDF et la police pouvaient se préparer à saisir le matériel, à brouiller les émissions.
Alors oui, vous parliez tout à l'heure justement de l'idéologie qui est portée par ces radios avec la déclaration des droits de l'homme, etc. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu quelles étaient les idéologies de la radio libre à ses origines ? Des radios
libres ?
Oui,
alors il y a plusieurs tendances, mais bon, alors certains, je ne sais pas, s'inspiraient de mai 68. C'est un mouvement quand même qui enfin, voilà, certains à l'époque, donc en 60, si vous voulez, en 77, 75, mai 68, c'est pas encore très loin. Donc certains, voilà, l'idée de liberté de la parole qui était quand même importante pendant les événements de mai 68. Donc voilà, il y avait une source d'inspiration qui était là, et d'ailleurs il y avait une source d'inspiration y compris au sein des radios, parce que c'est vrai qu'à cette période, bon, les radios périphériques comme RTL, Europe 1 ont traité mai 68, et ils étaient souvent en direct à Saint-Germain, ou voilà, dans des lieux comme ça où ça bougeait beaucoup. Et donc, il décrivait le mouvement un peu comme un match de football. Vous imaginez aujourd'hui un match de football quand c'est décrit à la radio. C'est vrai que voilà, ça peut être très vivant. Hein. Et donc, ça a pu inspirer aussi. Voilà, il y avait une certaine liberté. Et donc, justement, après, ça n'a pas du tout plus au pouvoir. Hein. Vous savez que, y compris à Radio France, beaucoup de personnes ont été licenciées. Du fait du traitement de mai 68, voilà, du manque d'objectivité par rapport par rapport à ce que voulait le gouvernement. Et donc voilà, donc ça c'est une source d'inspiration. Voilà, c'est importante. Et puis évidemment, voilà, il y a un développement des médias. Ben après, c'est aussi dans le domaine du cinéma, la vidéo qui se développe un peu. Enfin, voilà, la presse, papier. Enfin, il y a une idéologie de la liberté, des médias, de l'expression. Et puis, peut-être qu'on peut voir aussi, de façon plus lointaine, peut-être. L'informatique aussi qui commence, mais voilà, c'est le début, mais c'est vrai que l'informatique arrive, voilà, dans le début 80, fin des années 70, et donc l'informatique laisse aussi, il y a aussi tout un imaginaire qui existait, voilà, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, où la technologie permettra un peu de libérer la population, et donc c'est vrai qu'on trouve aussi des théoriciens, un peu qui ont développé l'idée de la liberté de la parole. On pense à Radio Alice, on pense à aussi à certains philosophes qui ont beaucoup soutenu le mouvement des radios libres, qui ont même fait un peu de radio libre. Voilà, il y avait l'atmosphère intellectuelle, philosophique, a soutenu globalement le mouvement, y compris les journalistes.
Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui définirait, selon vous, une radio libre? Est-ce que c'est un terme qui est encore pertinent pour parler de la radio?
Alors, juridiquement, c'est pas un terme qui est pertinent, parce que bon, le mot libre, c'est un mot un peu, on peut mettre un peu tout dans le mot libre, c'est-à-dire, tout le monde peut se revendiquer de la radio libre. Voilà, une radio commerciale, une radio publique, il y a déjà eu des émissions qui s'appelaient Radio Libre sur France Culture. Bon. Voilà. Alors, les radios associatives se revendiquent davantage de ce, oui, il y a même, radio jeune comme Skyrock se revendique toujours. Mais d'ailleurs, il y a une lointaine origine du fondateur de Skyrock qui a fait de la radio libre à l'époque, c'est-à-dire avant 81, il a commencé à faire de la radio libre. Mais alors globalement, c'est plutôt les radios associatives aujourd'hui qui se revendiquent de ce courant d'idées. Donc il y a toujours le syndicat national des radios libres. Hein, donc vous voyez, il y a un syndicat dont le mot radio libre figure dans les termes. Et donc voilà, c'est plutôt les
Ce serait plutôt symbolique.
Oui, c'est plutôt symbolique, mais en même temps, bon, c'est alors le fait qu'il y ait un tiers secteur, c'est-à-dire un secteur qui de la radio qui n'appartienne pas ni au commercial ni au public, mais qui malgré tout a le droit de faire un peu de publicité et qui est subventionné beaucoup par le public. C'est que voilà, c'est un secteur intermédiaire, et en tout cas un secteur qui sort du régime binaire commercial public, et donc qui bénéficie d'une certaine liberté, en tout cas liberté d'expression serait quasiment totale, enfin, la liberté qu'on a dans, parce que voilà, ils sont pas dépendants de la publicité, ils sont pas dépendants du pouvoir, en tout cas beaucoup moins que voilà les autres radios, qui sont pas voilà dépendants aussi de l'audience. C'est vrai, quand on n'est pas dépendant de l'audience, quand on est voilà, quand on vise avant tout à faire de l'offre, une offre culturelle, voilà, c'est un atout des radios associatives qui évidemment n'existe pas dans les radios commerciales, où la radio commerciale, bah, faut avant tout, plaire absolument à l'auditeur pour avoir un maximum d'audience. Donc, forcément, bah, il y a certains programmes qui ne vont jamais exister, que ce soit sur la radio publique ou la radio commerciale. Bah, c'est impossible de voir certains programmes parce que ils plaisent à une quantité de personnes pas assez importante, et donc ça n'a pas, voilà, ça c'est, d'un point de vue stratégique, commercial, ça n'a pas d'intérêt pour elle.
Mmh. Alors, pour terminer, Sébastien Poulain, au regard de ce passé de la radio que vous nous avez présenté, comment vous voyez son avenir à la radio?
Alors, écoutez... ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que les médias s'accumulent, c'est-à-dire on a eu la presse papier, on a eu ensuite la radio, on a eu la télévision, on a aujourd'hui Internet. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas eu de suppression totale d'un média. En revanche, c'est vrai qu'on voit quand même des médias disparaître, notamment, voilà, aujourd'hui c'est la presse locale, mais bon, voilà. La presse nationale aussi, qui est d'ailleurs subventionnée, qui a des très grandes difficultés. Il y a des mouvements de concentration, et encore aujourd'hui, le CSA a changé un peu les règles au niveau du seuil anti-concentration. Donc, il se peut qu'il y ait des concentrations, que ça soit au niveau, disons, local, régional, donc avec des radios, là, de la syndication, des choses comme ça, de la consolidation, comme on dit, hein, mais donc voilà, il y a des mouvements comme ça, donc ça diminue le pluralisme, c'est objectivement, voilà, c'est objectivement, à partir du moment où vous faites partie d'un groupe, bon, ça n'empêche pas le pluralisme totalement, hein, mais c'est vrai que, voilà, d'un point de vue de la propriété, en tout cas, clairement, oui. Après, les programmes, voilà, après, il y a des fois des radios commerciales. Sur Internet, il est possible de faire des centaines de radios avec peu de prix, c'est ce qu'on voit avec des groupes comme Énergie. Donc voilà, donc bon, la difficulté, bon, c'est surtout une difficulté économique, mais c'est pour tous les médias, c'est-à-dire la presse papier, la télévision, et puis Internet aussi. Internet, c'est malgré tout, même si tout le monde pense que c'est l'avenir, etc., pour l'instant, il y a peu de médias qui parviennent à trouver un modèle économique viable. Je pense que c'est très important, en fait, pour la crédibilité de l'information et la crédibilité du journalisme et la crédibilité des médias, parce que vous savez, il y a un baromètre annuel de la crédibilité des médias qui est fait par la Croix, et on voit que la radio, c'est le média le plus crédible. Et moi, je pense que c'est lié en partie, bon, alors, il y a des raisons techniques, des raisons, je sais pas, politiques, journalistiques, mais c'est aussi le fait que, en effet, en radio, il y a quand même, un tiers secteur, il y a, voilà, un secteur un peu pluraliste par rapport à la télévision, ou si vous voulez, la télévision associative, elle est pas très existante, alors qu'il y a quand même 600 radios associatives en France. Donc, ça crée un pluralisme, ça crée une relation un peu plus de proximité entre le média, entre les animateurs et puis le public, puisque voilà, c'est local, donc c'est proche, et donc ça donne une certaine confiance. Or, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les questions de post-vérité, de désinformation, ou des choses comme ça, il y a quand même, par rapport aux politiques, etc., il y a quand même un manque de confiance de la part des citoyens vis-à-vis des médias. Or, les médias jouent quand même un rôle extrêmement important dans la vie citoyenne, dans la vie politique. Donc il y a une nécessité, en fait, de faire exister, voilà, un tiers secteur associatif, selon moi, pour y compris pour les autres radios, y compris pour la radio commerciale, y compris pour la radio publique, parce que s'il n'y a pas d'alternative, s'il n'y a pas des voies alternatives, d'autres façons de produire, d'autres façons de voilà, d'écouter la radio, en fait, tout le système, voilà, va être jugé globalement, et donc ça sera le système médiatique, et ça sera, qui sera critiqué, et il y aura plus, il y aura de moins en moins de confiance dans les médias et dans les journalistes. Donc il y a un devoir de la part des institutions publiques et de la part des citoyens de s'investir dans ce type de médias associatifs, selon moi.
Eh bien, merci Sébastien Poulain, merci pour cet œil, ce regard très positif sur la radio. Je rappelle que vous êtes co-auteur de Radio Libre, 30 ans de FM, La Parole Libérée, qui est paru donc en novembre 2016 aux éditions de l'Harmattan. Merci Sébastien Poulain.
Merci.
Et on poursuit, Émilie, avec une pause musicale de ton choix.
Oui, on va écouter une chanson qu'on a l'habitude d'entendre à Radio Larzac. Vous l'entendez à chaque fois, c'est notre générique pour le journal de Millau en ondes. Et c'est Les Acrobates, le journaliste.
Surtout, ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité.
Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de préférence. Nos auditeurs sont en attente, je n'en peux plus. Téléspectateurs en demande, images passées et repassées. J'en ai tant dit et redit, je suis perdu. J'ai usé de nos experts, de nos correspondants de guerre. Abusé des grands reporters, des sondeurs de sondages, commentateurs, menteurs d'images. Et sous leur toison lisse glissent les scies. Superposition de supposition. Ils vont me mettre ma télé en bouteille.
Donnez-moi de l'information.
Ouais, c'est ça, les...
Donnez-moi de l'information.
Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de toute urgence. L'actualité doit primer, rien ne peut l'arrêter. Sauf
publicité.
On se retrouve après ça, mélangeons tout, tirons la chasse. Papier, water, l'auditeur, coups de Trafalgar, des voitures de luxe, des hommes en déroute, des slogans qui frappent. Chirurgicales, opérations boursières, bancaires, comptage de morts qui monte et sort de l'audimat, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches en abondance, des révélations impromptues pour mon prompteur abattu,
des débats animés,
plein de manies et de tics
journalistiques,
manichéens,
et deux, et trois. Passant à l'heure,
on se contente à dix
d'un flot de superlatifs.
À chaque instant son plus ceci, et chacun veut son plus cela, et tous pour un et tous pourri, on simplifie, ça amplifie. Édition spéciale, édition spéciale, une interview de l'homme qu'aurait vu l'homme qui n'a rien vu. Mais moi j'ai tout entendu, oui tout entendu, oui 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 moi j'ai tout entendu. Tout entendu. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de préférence. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches en abondance. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de toute urgence. Donnez-moi de l'information.
Mais d'abord les prévisions de Joël Collado de Météo France. Une plutôt belle journée côté météo en tout cas.
L'invité de l'actu associative. Et non, vous n'êtes pas sur Radio France avec Joël Collado, ni même dans le journal de Millau en ondes, vous êtes bien sur l'actu, sur un plateau, sur Radio Larzac. Et nous recevons maintenant Eliane Blin, présidente de l'Assemblée régionale des radios associatives, autrement dit LARA. Bonjour Eliane Blin.
Bonjour.
Donc après le rassemblement des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, les radios associatives d'Occitanie, elles aussi, se regroupent. Qu'est-ce que cela apporte aux radios associatives de se regrouper? Quel est le rôle effectif de LARA?
Alors, effectivement, on a commencé cette idée du regroupement il y a 2 ans, avant même que la loi NOTRe et la fusion des régions soient démarrées. Donc on avait un petit temps d'avance, mais pas tant que ça finalement. Et on a donc regroupé les deux anciennes fédérations qui n'étaient pas au même niveau de structuration et de fonctionnement dans une seule nouvelle entité qui s'appelle LARA, l'Assemblée régionale des radios associatives d'Occitanie. Et c'est une grande difficulté parce que il y a quand même 90 services radiophoniques sur ce territoire. Aujourd'hui, on en rassemble 85 qui se situent sur 13 départements. On a effectivement la première difficulté que l'on a rencontrée, c'est comment se réunir, comment travailler ensemble, comment s'organiser à l'échelle de ce nouveau territoire qui est très très vaste. Donc on a réparti, on a redécoupé le territoire en unités territoriales, en laissant toutes seules, à part les deux métropoles, c'est-à-dire le département de l'Hérault et le département de Toulouse, de la Haute-Garonne. Et ensuite, on a essayé de faire des regroupements de départements pour obtenir 7 unités territoriales qui représentent à peu près chacune entre 10 et 15 radios. Notre souci étant de mettre en place une organisation qui permettait de rester le plus près possible en contact avec nos radios, où qu'elles soient. Et les délégués territoriaux, donc il y en a 2 par unité territoriale, fonctionnent en binôme. On a essayé de faire un homme, une femme, pour la parité. C'est encore un peu difficile, il faut que les femmes s'investissent dans la gouvernance des radios et dans la vie associative. On a un peu du mal hein, encore, mais bon, on est presque arrivé à l'équilibre. Donc ces 2 délégués territoriaux, ils font en fait le passage d'informations entre l'ARA et les radios, mais aussi, et c'est le plus important, ils font remonter l'état des lieux, les demandes des radios vers l'ARA. L'un des deux délégués est vice-président, c'est-à-dire qu'il fait partie de du bureau et on se réunit donc régulièrement. Pour se réunir et pour diminuer le coût de fonctionnement, on a choisi de se réunir une fois par mois en visioconférence et trois fois par an, on organise un séminaire de travail sur plusieurs jours. On vient d'en faire un en Lozère, à Florac. C'est à chaque fois des moments extrêmement intéressants, productifs, parce qu'on se consacre pendant 2 jours et demi uniquement au projet de l'ARA.
D'accord. Et alors, quels sont-elles concrètement ces projets? Comment vous soutenez les radios associatives?
Alors au départ, à sa création, l'ARA avait 2 objectifs. Et surtout un qui est très très fort, c'était de négocier une nouvelle convention avec la nouvelle région. Donc c'est à peu près à ça qu'on s'est employé toute cette année, sachant que on avait un petit problème de timing avec la région, puisque la région n'avait pas fait ses arbitrages financiers, donc on ne savait pas combien de quelle enveloppe serait attribuée à la culture, et à l'intérieur de cette enveloppe, il faut encore faire un arbitrage sur le volume qui sera arbitré pour les radios associatives. Donc on est en ce moment au moment de l'arbitrage final. Donc je pense qu'on va aboutir très rapidement à la convention, mais il nous manquait cet arbitrage pour pouvoir aller plus loin. Donc à ce sujet-là, on a donc écrit récemment à Carole Delga, la présidente de région, pour la sensibiliser sur le fait que pour nous, c'est déjà le mois de février, qu'on avait peur d'une année blanche, qu'il fallait mettre en place assez rapidement le conventionnement, de façon à ce qu'on ait le temps de développer les actions derrière et de partager tout ça avec nos radios.
Alors, est-ce que vous pourriez juste rappeler combien il y a de radios associatives membres à l'ARA?
Écoutez, aujourd'hui, on est 85.
Merci. Et alors, vous les voyez comment? Enfin, quels sont les enjeux, justement, de cette économie basée sur les subventions de la région? Vous essayez de tirer pour avoir le maximum de subventions. Comment c'est possible de survivre dans cette économie-là?
Effectivement, puisque la région nous a dit l'enveloppe qui était attribuée en Languedoc-Roussillon avant ne pourra pas être multipliée par le nombre d'opérateurs. Ça fait un volume trop grand, sachant qu'il y avait au départ une grande disparité. Donc, on se bat pour que la région garde une part d'aide automatique, donc une subvention de fonctionnement attribuée chaque année. C'est un débat parce que la région, elle, souhaiterait plutôt aller vers une sélectivité un petit peu sur le modèle du fonds de soutien. Voilà, donc ça c'est déjà un problème qui n'est pas arbitré au moment où je vous parle. Et ensuite, il y a le volume des appels à projets pour lesquels on pourra solliciter les radios. Maintenant, si on parle de l'économie globale d'une radio, c'est le même combat, je dirais, qu'il faut que l'on mène au fonds de soutien avec les organisations nationales. On a à peu près le même regard sur le financement des radios associatives.
Alors le fonds de soutien,
l'État,
c'est un peu
et les régions, voilà, on nous raconte plutôt aller vers la sélective, et nous on se défend l'idée que la subvention d'exploitation, c'est le meilleur garant pour les radios par rapport à l'emploi.
Alors est-ce que vous pourriez expliquer ce fonds de soutien là et puis la sélective dont vous parlez, donc qui sont des subventions?
Ça, c'est les subventions de l'État, transitant par le ministère de la Culture. Et le fonds de soutien donc apporte une aide à l'équipement et à l'investissement des radios tous les 5 ans. sur une enveloppe plafonnée. Il apporte une aide annuelle au fonctionnement. Alors, ça dépend du chiffre des produits retenus, mais en général, c'est entre 30 et 42 000 euros. Voilà, ça, c'est une aide fixe à laquelle est adossée une notion de subvention sélective qui s'appuie sur les critères de l'action de communication sociale de proximité. Culture, éducation, environnement, développement local, lutte contre les discrimination et intégration. Donc ces trois critères-là donnent un droit d'entrée à la seconde aide qui est l'aide sélective.
Très bien, merci. Et pour terminer, si vous pouvez nous donner quelques billes sur la façon dont l'ARA voit l'arrivée de la radio numérique terrestre dont on parle beaucoup, qui consiste, donc je rappelle pour les auditeurs, qui consiste à remplacer la bande FM par un réseau numérique sur le modèle de la TNT pour la télé. Et qui nécessite notamment de changer tous les récepteurs, tous les postes de radio. Donc, il y a eu quelques essais en France. Certains pays s'y sont convertis plus largement. Comment vous, à l'ARA, vous appréhendez l'arrivée de la RNT dans la région ?
Alors, on a beaucoup de débats sur cette question. Pour finir, on s'est arrêté sur une position qui est plutôt simple. Ne sachant pas ce que va devenir effectivement la RNT, mais devant le fait accompli que l'État et le CSA développent, le CSA ouvre les appels à candidature, donc commence le déploiement de la RNT. Paris, Nice, Marseille, c'est fait. Il y a le Strasbourg et les Hauts-de-France, donc et Lille. Donc et très prochainement un appel sur Toulouse, qui sera suivi par un appel sur Montpellier. Donc ça c'est déjà programmé. Donc devant ce développement, on se dit qu'il vaut mieux prendre le premier train qui passe, de peur de ne plus pouvoir avoir accès après, si on laisse passer ça, dans les multiplexes. Donc après, c'est assez compliqué, je suis pas forcément la meilleure personne pour en parler. Mais la décision qu'on a prise, la position qu'on a prise, c'est de prendre ce train en marche, mais de ne pas d'essayer d'en diminuer les coûts, parce que le vrai problème de la RNT, c'est comment ça va déstabiliser les radios économiquement, puisqu'il va falloir qu'elles tiennent une double diffusion. Pour celles et de toute façon, ça va alourdir, parce que la RNT va permettre la création de nouveaux services radiophoniques qui vont venir en plus alourdir le fonds de soutien. Donc ça, c'est encore un autre débat, mais il faut faire attention, il faut vraiment réfléchir les projets. Et à ce niveau-là, on compte vraiment accompagner nos radios quand elles vont être concernées par l'ouverture des appels à candidature. Ensuite, on essaye de développer une expérimentation pour créer des multiplexes associatifs avec des logiciels libres et sans faire de bénéfices dessus, parce que ça, c'est le problème de la RNT, c'est qu'en fait, on est obligé de passer par des diffuseurs qui sont
commerciaux,
comme TDF ou Tovercast, qui vont être chers. Donc nous, on essaye de trouver une solution alternative à partir de logiciels libres et de régler un multiplex, de le gérer. Pas le régler, le gérer administrativement, de façon à ce que le coût soit moindre pour les radios.
D'accord.
Voilà, je ne peux pas vous en dire plus.
Ben, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Éliane Blin, d'avoir été sur les ondes de Radio Larzac. Donc, je rappelle que vous êtes la présidente de l'Assemblée régionale des radios associatives.
Merci à Radio Larzac pour cette initiative.
Et on poursuit l'actu sur un plateau, Émilie, avec une pause musicale.
Avec Brigitte Fontaine, comme à la radio.
Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots. Des mots. Comme à la radio, ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. De juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. De juste un peu de bruit, n'ayez pas peur. Ce sera tout à fait comme à la radio. À cette minute, des milliers de chats se feront écraser sur les routes. À cette minute, un médecin alcoolique jurera au-dessus du corps d'une jeune fille et il dira: elle ne va pas me claquer entre les doigts, la garce. À cette minute, cinq vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est moins 20 ou moins 5. À cette minute, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À cette minute, deux policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À cette minute, une vieille dame ivre morte gémira seule au dernier étage sous son lit et ne pourra plus bouger. À cette minute, un Français sera bien content d'avoir trouvé du travail. Il fait froid dans le monde. Il fait froid. Il fait froid. Ça commence à se savoir. Et il y a des incendies qui s'allument dans certains endroits parce qu'il fait trop froid. Traducteur, traduisez. C'est ce que c'est que la radio. Il ne peut rien s'y passer. Rien ne peut avoir d'importance. Ce n'est rien. Ce n'était rien. Juste pour faire du bruit. Juste de la musique. Juste des mots. Des mots. Des mots, des mots, des mots, des mots, des mots, de juste un peu de bruit, de juste un peu de bruit, de juste un peu de bruit. Thank you.
partez pas. Ne partez pas. Ne partez pas.
Invitez-vous.
Invitez-vous.
Come on, everybody.
Nos micros sont ouverts.
Ne partez pas, vous dit Brigitte Fontaine, restez avec nous sur Radio Larzac dans l'actu sur un plateau, puisque nous écoutons maintenant joint par téléphone hier, puisqu'il est occupé aujourd'hui à remonter une antenne de radio arrachée par la tempête. Donc nous écoutons.
On voit que toutes les radios ont les mêmes problèmes.
Exactement, nous aussi, nous avons une antenne en moins à la Couvertoira, d'ailleurs, avis aux amateurs qui veulent remonter une antenne. Donc nous écoutons maintenant Jean-François Chaval, qui est un acteur local de la radio associative en zone rurale, et ce, depuis ses débuts. Donc tout d'abord, Jean-François Chaval, je voudrais vous demander ce que c'est votre relation à l'outil radiophonique.
Alors c'est une relation qui est issue de deux centres d'intérêt. D'abord, le fait que moi-même, au départ, j'ai été dans ma jeunesse radioamateur, puis j'ai fait des études de technicien supérieur en télécommunication, et j'ai donc fabriqué des émetteurs et tout pour l'industrie. Et puis, je suis parti faire de l'audiovisuel pendant un certain temps, jusqu'en 81. Et en 81, j'étais donc dans un centre où il y avait de la formation à l'audiovisuel lorsque les radios libres, comme on disait à l'époque, ont été autorisées. Voilà. À ce moment-là, dans ce centre de formation à l'audiovisuel, quelques amis et moi-même avons décidé de monter une radio libre. Et pour moi, ça correspondait à ces deux centres d'intérêt, l'intérêt technique d'une part et l'attrait aussi pour la communication, pour la création audiovisuelle. Et c'est ainsi que j'ai monté Radio Grésivaudan à l'époque en 81, une radio qui fonctionne toujours, bien entendu, et qui est toujours aussi, comment dire, efficace sur le plan de la communication associative.
Du coup, vous avez aussi par la suite fondé Antenne Doc.
Alors, Antenne Doc, c'est en 93 que nous avons été autorisés. Donc je suis revenu de la région grenobloise vers le Lot. À cette époque-là, dans le Lot, il n'y avait plus de radio associative. Elles avaient disparu, toutes rachetées par des radios commerciales. Et donc l'envie m'a pris, bien sûr, de monter une radio associative dans le département. Donc ça s'appelait Antenne Doc et on a fait tout ça nous-mêmes, on a monté tout. Le grand principe ici chez nous, c'est que comme vous d'ailleurs, hein, c'est qu'on fait tout nous-mêmes avec des bénévoles, avec des gens qui ont quelque chose dans les mains. Donc la radio leur appartient.
Et alors vous qui avez vu la naissance des radios libres, et par rapport à maintenant, quelle évolution vous avez vue dans la technique, mais aussi dans les pratiques radiophoniques?
Oh, dans les pratiques radiophoniques, il n'y a pas beaucoup de différence entre une radio. Je ne parle pas des deux ou trois premières années, parce que là, c'était des balbutiements. On a fait ce qu'on a pu et on s'est posé plein de questions et puis on y a répondu. Mais entre une radio qui fonctionnait comme Radio Grésivaudan en 83 ou 84, 3-4 ans après, et la radio d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'écart dans ce que l'on met à l'antenne, c'est la même chose. Le contenu d'antenne est à peu près aussi libre. Ça dépend des radios, bien sûr, parce que vous avez des radios associatives qui se sont mis à ressembler à des radios commerciales, mais celles-là, bon, c'est leur problème, c'est leur affaire. Moi, je ne suis pas obtus et j'accepte que d'autres fassent différemment. Mais bon, je dis, il y a quand même beaucoup de radios comme la vôtre, comme Saint-Af, comme aussi Fréquence Plus, comme nous-mêmes et plein d'autres. Hein. On est nombreux à avoir à peu près le même profil, à quelque chose près, la même façon de faire, avec la même liberté. Plus ou moins anarchiste, ça dépend des endroits.
Et au niveau technique, alors, qu'est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que ça s'est simplifié de faire une radio? Est-ce que ça s'est compliqué?
Faire une radio, non, ça c'est pas spécialement. Au contraire, je pense pas, ça c'est pas compliqué. Il a fallu apprendre les nouvelles technologies, bien sûr. Il a fallu en plus de la technologie d'émission elle-même, des émetteurs, des antennes. Maintenant, il faut maîtriser aussi l'informatique et le Wi-Fi, les liaisons par Internet et ce genre de choses. Bon, d'accord. Mais ça, c'est, on vit avec son temps et on apprend au fur et à mesure que les technologies apparaissent. Ça n'a pas changé grand-chose. Mais un micro reste un micro, une table de mixage, une table de mixage. Les appareils se sont miniaturisés. Bien sûr, si on prend le cas des magnétos de reportage que nous avions à l'époque, bon, il y avait de quoi attraper des scolioses avec les nagras ou avec même les, il y avait des acailles. Les magnétos portables à bande, c'était de suite 10 kilos sur l'épaule. Mais sinon, il n'y a pas grand changement. Faire un interview avec un magnéto à bande, c'est à peu près pareil que de le faire avec... Alors, le montage n'est pas le même. Le montage n'est pas le même, je suis bien d'accord. C'était amusant quand on accrochait les bandes, les morceaux de bandes au mur que l'on avait découpés, et puis avec des boîtes à chaussures, quand elles étaient trop longues en bas du mur, on avait de la moquette pour ça d'ailleurs, pour accrocher les bouts de bandes. Et puis après, on les recollait sur le Revox, on recollait les bouts de bandes. Bon, c'était une autre façon de faire. De ce côté-là, je trouve que la technologie numérique et le montage numérique et les possibilités que nous avons de modifier les sons, de rattraper les bêtises, c'est peut-être plus performant. D'un autre côté, c'est aussi, ça nous prend beaucoup de temps, ça nous fait perdre beaucoup de temps. Avant, on ne se posait pas la question. Il y avait un clic ou un clac à l'intérieur sur la bande numérique. Si on pouvait l'enlever, on l'enlevait. Si on ne pouvait pas, on le laissait. Puis ça ne change rien pour l'auditeur, quoi. Ah, maintenant, on est perfectionniste. Ce qui a pu changer peut-être, c'est pas ça. C'est l'administratif, c'est la lourdeur administrative de notre époque. Tout ce qui tourne autour des détails de réglementation sociale ou autre. Quand vous employez quelqu'un, vous êtes maintenant bien embêté pour faire les bulletins de salaire, par exemple. À notre époque, quand la radio a commencé, il n'y avait pas ces tracasseries-là, c'était plus simple. Bon, les gens ils étaient payés pareil, c'est pas ce que je veux dire. Mais il n'y avait pas 36 trucs, 36 machins par Internet. Vous vous rendez compte du nombre de temps passé pour gérer maintenant l'administration d'une radio. Avant, on passait très peu de temps pour ça. C'est pas normal. Parce que dans une entreprise où vous avez quelquefois deux ou trois salariés, si vous utilisez un salarié à temps plein pour ça, c'est entre 25 et 33% du temps de travail de l'association. Dans le temps, on n'a utilisé jamais un tiers du temps pour faire de l'administratif. C'était beaucoup plus simple et donc on faisait plus de radio. Finalement, on faisait plus de radio.
Alors, si on revient sur la partie technique, pourquoi c'est important pour vous qu'une radio associative soit autonome techniquement?
Prenons le cas tout récent de Fréquence Luz. Fréquence Luz avait choisi à une époque de se faire diffuser par TDF pour trois émetteurs, installés de trois émetteurs de 100 watts, une très petite puissance dans les vallées de montagne. Pour trois émetteurs, TDF leur facturait 50 000 euros par an de service. Mais la radio, elle n'a pas pu tenir le choc parce que les subventions locales, tout ça, ont baissé et tout. Donc la radio, elle est devenue autonome. En devenant autonome, elle a certes les ennuis de l'entretien elle-même. Il faut qu'elle apprenne à gérer son matériel. Elle a quand même gagné 40 000 euros. La deuxième des choses, c'est que si vous faites appel à des gens, il faut en avoir les moyens. Et si vous ne faites pas appel à des gens, quand vous êtes en zone rurale, je ne sais pas comment vous faites autrement que de faire par vous-même. En ville, c'est pas pareil. En ville, vous allez avoir une radio qui a un émetteur de 5 kW installé sur une colline. Bon, là, ça va. Et d'autre part, je dis, on n'est pas obligé de se faire servir par les autres et de faire toujours appel. Quand on peut faire soi-même, il suffit d'apprendre. C'est bien mieux d'apprendre et de faire. Et après tout, c'est ça aussi la radio associative.
Et alors, pour rester sur cet aspect, la RNT, ça symbolise une révolution technique, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous en pensez? De quel œil vous voyez ça, la RNT?
Je me marre avec la RNT. La RNT, j'ai dit, en 1996, je crois, un jour à Toulouse, sur un colloque qui parlait déjà de la radio numérique, c'était le club DAB ou un truc comme ça à l'époque, j'ai dit ce que j'en pensais. Bon, à savoir que pour moi, tant que les auditeurs ne seraient pas équipés récepteurs numériques un peu partout dans les cuisines, dans les étables, parce qu'on écoute la radio, je ne sais pas pour vous, mais moi je peux vous dire qu'on écoute la radio dans les étables à un moment de la traite ou en faisant la grange. Et bien, tant qu'il n'y aurait pas des récepteurs numériques partout, la radio numérique, elle ne servirait pas à grand-chose. La deuxième chose, c'est que maintenant, on n'en a plus besoin. Maintenant, tous les jeunes, par exemple, ceux qui sont les plus sensibles d'ailleurs à ces nouvelles technologies et les plus à même de changer leur méthode d'écoute. Et les jeunes, dans la majorité des cas, la radio numérique, ils l'utilisent par Internet. Et si aujourd'hui on amène la radio numérique, d'abord dans nos campagnes, elle n'est pas près d'être là, mais le jour où on va l'amener, elle sera complètement dépassée. Ça apporterait une plus grande possibilité de radio. Et si ceux qui sont sur la bande numérique, sur la RNT, ne sont pas en analogique, à raison de 8 à 12 radios par multiplex numérique, pour en faire autant, ben, il faut 4 multiplex numériques. Et bien avant, vous ayez 4 multiplex numériques sur Mio, par exemple, vous pouvez vous lever de bonheur. S'il y a, chaque multiplex est un émetteur différent. Hein. Ça veut dire 4 émetteurs différents. Il en faut 4 tous les 30 km. 4 tous les 30 km. Personne ne pourra se permettre dans nos campagnes. Personne. Ça sera, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils programment sur les villes, d'abord sur les grands centres urbains. Et dans les grands centres urbains, en plus, ça fonctionne mieux qu'en campagne parce que c'est un système qui est curieux, mais qui fonctionne avec les réflexions, on va dire. Et les tours d'immeubles, les grandes tours d'immeubles, provoquent des réflexions qui permettent de mieux recevoir la radio numérique. Mais chez nous, dans nos campagnes, l'absorption des forêts, l'absorption des vallées, tout ce qui s'ensuit, eh bien, ça, c'est l'inverse. Ça ne fait pas de la réflexion, ça fait d'absorption. Et donc, on aura beaucoup de difficultés à capter correctement la radio numérique. Donc la radio numérique, c'est un magnifique fantasme, on va dire, de certains. C'est surtout le fait que nos députés, croyant bien faire, ont décidé de voter une loi un jour pour imposer au CSA de mettre en place la radio numérique. Et les mêmes députés d'ailleurs, ou enfin l'État français tout au moins, le gouvernement, lui de son côté n'a même pas décidé d'envoyer le service public se mettre sur le réseau numérique. On a fait en France plein de choses comme ça. On pourrait citer les ordinateurs dans les écoles avec les ordinateurs de chez Matra et consorts. Et puis on pourrait citer le Minitel, et puis on pourrait citer Numéris, et puis on pourrait citer plein de choses. Le résultat des courses, on est habitué en France. Alors on va commencer à faire du numérique par certains endroits, et comme ça ne suivra pas au niveau de l'écoute, ça sera abandonné. Moi, c'est ce que je constate, à la lenteur de la mise en place, à l'évolution des technologies et aux études qui montrent que finalement, ça ne fonctionne pas. Parce que je connais une radio qui s'appelle Radio Soleil, par exemple, d'un ami qui s'appelle Amar Daboussi. Il dit, j'arrête le numérique, je reviens à l'analogique parce que ça me coûte très cher et je n'ai pas gagné un auditeur. Je ne vais servir à rien.
Merci pour ces explications et puis merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
Allez, et bon courage à Radio Larzac et amitié à tous vos auditeurs.
Et ça, je me dis, c'est pas banal. Je fais ça, je suis dans mon journal. Et je me dis, quelle bonne idée. Ça devrait marquer l'actualité. Et c'est pas assez immonde pour faire le tour complet du monde. Ça doit tout de même mériter la première page en mon quartier. Et si tout ça, ça suffit pas, je pourrais aussi me prostituer. Si je ressemble à une geisha, je pourrais me faire des chefs d'État. Je veux être une bête de foire, un animal médiatisé. Je veux être une bête de foire, il me le faut pour exister. Je veux sortir de la mêlée, quitte à tout écraser. Je veux mon nom en gros marqué, en 4x3 surexposé. Je veux être adulé par les mondains du monde entier. Pour ces gens-là, être comme un frère, j'irai jusqu'à renier ma mère. Et si tout ça, ça suffit pas pour faire partie du quota, en première page, je vous lirai, voici le nouveau Kaiser Soze.
Je veux être une bête de foire, un animal médiatisé. Je veux être une bête de foire, il me le faut pour exister. Je veux être une bête de foire, un animal médiatisé. Je veux être une bête de foire, il me le faut pour exister. Un animal médiatisé, tu es une bête de foire, il te le faut pour exister. Nous sommes des bêtes de foire, des animaux médiatisés. Vous êtes des bêtes de foire, il vous le faut pour exister.
Et c'est maintenant la fin de l'actu sur un plateau. Merci de nous avoir suivis pour cette édition spéciale radio. Vous pouvez nous réécouter en rediffusion ce soir à 19h et sur l'audioblog Arte Radio de Radio Larzac. Retrouvez la semaine prochaine Radio Larzac fait son marché, si tout va bien et si nous pouvons transporter la caravane jusqu'à la place Foch. Merci Émilie pour la technique.
Et il n'y a pas de quoi.
Et à bientôt.